le 10 août dernier, Montréal Nord s'embrasait. Au-delà des clichés, des images négatives, Radio Centre-Ville vous propose une vraie rencontre avec des jeunes du quartier le mercredi 17 septembre à 11h30.
Si tu veux régler un problème, c'est pas par l'oppression, c'est pas en venant puis en gardant les gens durs puis en... J'ai été séquestré par les policiers, ils m'ont demandé mes cartes, je cherchais mes cartes puis ils m'ont carrément mis à terre et tout.
Ils ont la vingtaine, ils vivent le quotidien, la réalité de Montréal Nord. Ils ont des choses à dire, ils ont des choses à nous dire.
Que les gens arrêtent tout le temps percevoir les gens par leur image, la façon qu'ils sont habillés, qu'on juge les gens par qu'est-ce qu'ils sont vraiment là à l'intérieur d'eux.
Ne manquez pas cette table ronde spéciale Montréal Nord avec des jeunes du quartier, animée par Robert Laplante, mercredi 17 septembre de 11h30 à 13h sur Radio Centre-Ville.
Voter, c'est choisir son monde. Une élection fédérale aura lieu le mardi 14 octobre. Pour voter, vous devez maintenant prouver votre identité et votre adresse. Élections Canada vous enverra par la poste toute l'information nécessaire, y compris la liste des pièces d'identité acceptées. Informez-vous au www.election.ca ou au 1-800-463-6868. Le mardi 14 octobre, on vote.
Matin, 9h, eh bien oui, c'est le temps de Radio Tonique. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à cette nouvelle édition de Radio Tonique. Aujourd'hui, nous avons une très belle émission en avant de nous. Je suis en compagnie de Benoît Guérin.
Bonjour Jeanne-Audrey.
Bonjour Benoît. Bon mardi.
Bon mardi.
Et de Paul-Hubert Legault qui va nous accompagner une partie de l'émission. Et aussi, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, on reçoit Hélène Martinez, qui est une musicienne chanteuse qui va nous parler de chant prénatal. Alors c'est une j'espère qu'on va pouvoir apprendre un petit peu de ce que c'est que le chant prénatal, si vous connaissez ça ou non. Mais auparavant aussi aujourd'hui, mon Dieu, j'allais oublier notre chroniqueur journaliste indépendante Annick Perrault-Labelle qui vient nous parler des jeunes et des médias aujourd'hui. Alors, mais auparavant, j'aimerais vous parler un petit peu d'un événement qui s'est passé samedi dernier, le 13 septembre, au parc Émilie Gamelin à Montréal. Il y avait une manifestation au sujet du refus canadien de souscrire à la Déclaration des droits des Autochtones des Nations Unies. Alors, je trouve que c'est important parce que ça touche non seulement la façon dont le Canada peut se comporter en regard des Autochtones, et je trouve que ça fait un drôle de suivi si on considère que Harper s'était excusé il y a quelques mois, alors on comprend pas du tout. Et d'autre part, ça va toucher aussi nos préjugés. Moi, j'ai pas le goût nécessairement de défendre les Amérindiens, pas plus que je défendrais les Italiens ou les Grecs qui ont pas besoin de moi pour se défendre. Mais j'aurais le goût, au fond, de parler de préjugés. J'aurais le goût de voir qu'est-ce que ça vient toucher chez nous de voir que le Canada ne souscrit pas à ça. J'ai l'impression qu'il y a une partie de la population qui est pas mécontente de ça.
Ah oui.
Comprends-tu? Il y a une espèce de vendetta entre deux peuples. Ouais. Et bon, moi, je peux parler de moi pour ma part. Quand j'étais à l'école toute petite, j'apprenais que les Amérindiens étaient des vilains petits messieurs qui venaient nous scalper le ciboulot.
Ouais.
Oui, c'est des sauvages, quoi.
Ouais.
Et c'est très lentement que j'ai fini par transformer ma vision du peuple amérindien, de la tradition amérindienne. Et c'est tout comment ça s'est fait, Benoît? Ça s'est fait un jour où il y a un homme qui m'a appelé des États-Unis, qui s'appelait Harold. Et bien, ça, c'était son nom américain. Son vrai nom, c'était l'ours qui se tient debout longtemps. Et Harold Gray, pour nommer son nom, était chef de tribu amérindienne, une tribu qui s'appelle les Blackfoot, qui vit dans le Montana. Et Monsieur Harold Gray m'a demandé de traduire un livre qu'il avait écrit sur la tradition amérindienne. Alors moi, je suis tombé à terre, j'ai eu le temps de me relever, j'ai dit bon, pourquoi vous m'appelez moi? Je connais absolument rien. Il m'a dit j'ai eu votre nom et je sais que c'est vous. Moi j'ai dit bon, un autre gourou, un autre chaman qui me parle dans ma vie. Alors j'ai accepté de traduire ce livre qui s'appelait Nixokoa en langue amérindienne, et ce qui veut dire en français mes proches ou mes parents, si vous voulez. Et à travers ce livre, c'est à travers ce livre-là que j'ai appris à connaître la tradition amérindienne, la pensée et les valeurs amérindiennes. Mm-hmm. C'est d'ailleurs là que j'ai appris, et j'aurais le goût de vous en parler très longuement de ça, mais je pense que je vais découper ça. C'est là que j'ai appris que les Amérindiens avaient des valeurs et que ces valeurs, je dis pas tous les Amérindiens, parce qu'évidemment, chez les Amérindiens, c'est comme chez les Québécois ou les Américains, t'as des gens qui sont spirituellement très évolués, puis t'as des petits cons à côté, tu sais, des petits casses qui font
comme
toutes
partout.
Sortes de... comme partout, hein,
ça. Mm-hmm.
Mais c'est là où j'ai appris, en traduisant ce livre-là, qu'il y avait des choses qui avaient de la valeur et il y avait des choses qui n'en avaient pas, qui n'en ont pas. Et au fond, auparavant, j'étais un peu mêlé. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur, qu'est-ce qu'il n'y en a pas? Alors, je me souhaite une petite équation que je vous propose aujourd'hui. Je vous dirais, ce qui a de la valeur n'a pas de prix. Comprenez-vous? Et ce qui a un prix, la plupart du temps, n'a pas de valeur.
Uh-huh.
Et ça, j'ai par exemple, un exemple, votre maison n'a pas de valeur. Elle a un prix, mais elle n'a pas de valeur. Mm-hmm. C'est de la terre. C'est de la terre, c'est de la brique.
Là, tu parles de la valeur au sens de l'importance. Elle n'a pas vraiment d'importance au sens ultime.
Parle de la valeur au terme de sens.
Ah oui.
Quel sens ça a pour moi et comment ça s'intègre à moi. T'sais? Alors, par exemple, la maison n'a pas de valeur, mais l'arbre dans l'avant de la maison a de la valeur. Parce que l'arbre est vivant et l'arbre fait partie de la conscience que j'ai de la vie. La planète a de la valeur.
Bien sûr.
Le champ en dessous de l'arbre a de la valeur. Uh-huh. Et surtout, vous avez de la valeur. Toi, Benoît, t'as de la valeur. Moi, j'ai de la valeur.
Ah,
c'est
oui.
Comme... Alors, ou à moins que moi, je ne sois pas consciente de ma valeur, à ce moment-là, on va dire que j'ai un prix.
Oui. Effectivement, on va être prêt à se vendre ou à faire des bassesses pour...
Exactement.
Oui, tout à fait.
Mon grand-père me disait, quand j'étais toute petite, il me disait, fais ce que tu veux dans la vie, mais le soir, devant ton miroir, arrange-toi pour être capable de te regarder et d'être fier de toi.
Ouais.
Et ça, il me le répétait là, ad nauseam. Et finalement, j'ai fini par comprendre que c'était... le plus beau conseil, le meilleur adage que j'ai reçu de toute ma vie.
Ouais, c'est vrai que c'est beau.
Alors, les Amérindiens, je suis venu vous parler de ça aujourd'hui, là, je voulais faire ma chronique là-dessus, c'est que les Amérindiens et le refus canadien de signer l'accord des Nations Unies entrent un peu dans la perspective de cette querelle-là qu'on a avec le peuple autochtone, qui fait que on croit toujours que les droits du peuple autochtone sont une tentative de dominer, de domination.
Uh-huh.
On considère pas que des droits d'un peuple, c'est simplement son droit au respect, par exemple, au respect de ses valeurs, au respect de son territoire. Ces gens-là étaient ici avant nous. Nous, ça fait 500 ans qu'on est en Amérique du Nord. Ces gens-là, ils sont ici depuis plusieurs milliers d'années. Je veux pas dire que la terre leur appartient plus qu'à nous, mais je veux dire qu'ils ont autant
le droit à la terre.
Nous à la terre, au moins, hein, ils ont autant droit au respect que nous aussi. Alors, il faudrait arrêter de se battre les uns contre les autres. C'est pas en se battant. On a tous les mêmes droits.
Et puis de toute façon, d'après ce que tu nous disais, ils viennent pas chercher les choses qui ont un prix. ils parlent des choses qui ont de la valeur.
Exactement.
Et là, on en vient à perdre parce que c'est pas des choses qu'on peut s'approprier puisque ça a pas de prix, là. Alors, c'est un peu ça que tu nous dis, là, que,
oui,
dans le fond,
que...
ça ne remet pas en question le fait qu'ils veulent avoir des droits, là.
Absolument pas. Uh-huh. Et non seulement ça, mais je crois qu'ils auraient le droit de nous enseigner.
Bien sûr.
Parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous enseigner. Pas à bâtir des casinos, là. Tu sais, je parle pas de ça.
Des choses qui ont de la valeur.
Des choses qui ont de la valeur et qui font partie de la tradition du peuple.
Ouais.
El Pueblo, comme ça s'appelait au début, du peuple américain.
Visa du peuple américain. Chez
du peuple américain. Je peux pas vous l'absoudre, ça.
C'est beau, je serais content.
Oui, c'est ça. Et ces valeurs-là sont basées sur la relation avec la vie. La relation avec la nature et la relation avec les autres, avec chaque partie des autres. La première chose que M. Harold Gray parlait dans son livre, il parlait de la cosmologie ou la cosmogénèse du peuple amérindien, et il racontait une histoire, une légende amérindienne qui raconte que au début Dieu avait donné, ou Dieu, ou appelez-le comme vous voudrez, avait donné la connaissance totale à chaque partie de l'univers, à chacun des animaux, à chacun des arbres, des plantes, etc. Mais que certains des animaux, certains des humains avaient profité de connaître tout pour exploiter les autres. Et là, Dieu était pas très heureux, très content. Alors, il a fait venir tout le monde en avant, puis là, il leur a dit, écoutez, là, c'est pas comme ça que vraiment, j'avais pas prévu ce genre de truc-là. Alors, je vais donc un petit peu réorganiser ma création et je vais m'organiser pour que chaque partie de la création est une partie de la sagesse et de la connaissance. De sorte que vous allez être obligé
d'aller les uns vers les autres. Oui, tout à fait. Il est wise.
Oui, très wise, Dieu. Très wise, ouais. Dieu. Alors, et c'est depuis ce temps-là que dans la tradition amérindienne, c'est pour ça qu'on considère que l'aigle a quelque chose à nous enseigner, que le loup a quelque chose à nous enseigner.
Ah ben oui,
que...
littéralement.
Oui, vraiment. Et c'est pas de l'animisme. Nous, les Blancs, quand on regarde les Amérindiens, on a l'impression qu'ils sont animistes et qu'ils donnent, ils vont adorer, par exemple, une tortue ou, tu sais, un lièvre ou tout ça. Il y a
mais pas comme de... si c'était un humain lièvre, mais c'est pas ça qu'ils veulent. C'est
non,
pas
c'est ça.
L'idée,
ouais. C'est vraiment c'est mon frère, la tortue. C'est vraiment un échange où moi je donne à la tortue et la tortue me donne ou tu sais, en termes de sagesse.
Beaucoup plus proche de ce qu'on nomme en écologie, vraiment. C'est comme l'espèce d'échange naturel entre les parties de tout ce qui existe. Là.
Alors tout ça pour revenir à une chose, Benoît, parce que je vois que le temps file, mais j'aimerais ça qu'on se repose la question de comment on se positionne par rapport au peuple amérindien et qu'on permette à notre cœur de s'ouvrir un peu, d'arrêter de vouloir se battre, tu sais, pour reconnaître des droits et peut-être écrire aux députés pour dire à Harper, tu sais, sors ta plume puis arrête de faire des contradictions. Au mois de mai, tu t'excuses, pour au mois d'août, tu brimes.
Alors, il y a pas
tu t'exclus.
Ouais, c'est ça.
Eh bien, n'écoutez pas, chers auditeurs, nous allons maintenant à la pause, à la suite de quoi nous revenons avec Hélène Martinez et Paul Legault. Hélène nous parlera de chant prénatal. Alors, à tout de suite.
Il pleut jour de Noël, mais je m'en fous. Ça m'empêchera pas de faire des choux, bidou, bidou, bidou. J'ai des petites boules de lumière partout. Et j'essaie pas ce tranche d'un coup. Donne-moi tes petits becs, tes petits becs, tes petits becs partout. Donne-moi tes petits becs, je vais t'en donner tout. Le soleil a beau être triste pour toujours, les oiseaux s'encrissent à l'arrivée des tours, et on ira jusqu'au bout de cette drôle d'existence qu'on vit par petits bouts.
Tibet, des Tibet, des Tibet partout. Donne-moi des Tibet, je veux t'en donner tout.
Bonjour, chers auditeurs. Et j'ai avec moi aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Madame Hélène Martinez, qui est musicienne, chanteuse, m'a-t-elle précisé, et une musicienne professionnelle qui a aussi une école de chant. Elle est venue nous parler ce matin de chant prénatal. Alors moi, j'ai vitement regardé sur Internet hier pour savoir qu'est-ce que c'était, mais j'avoue que j'ai énormément à apprendre là-dessus. Bonjour Hélène, merci d'être venue.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais nous parler de un petit peu de ce que c'est que le chant prénatal?
Ben, si tu me permets, je vais partir d'une anecdote, en fait, de ce qui m'a amené au chant prénatal pour pouvoir en parler plus librement par la suite. Alors, quand j'ai accouché moi-même, comme par une espèce de réflexe de chanteuse, j'étais dans un état particulier. J'avais quand même les douleurs de contraction que la plupart des femmes qui ont accouché connaissent. Et je me suis mis comme spontanément à faire des sons. Et j'étais tellement surprise du fait que ça libère tellement la douleur, en fait que ça empêche la douleur d'être aussi puissante, que j'avais presque du mal à valider mon expérience. Ça m'étonnait tellement parce que ça atténuait tellement la douleur que j'ai regardé ma sœur qui était avec moi et je lui ai dit « mais ça fait plus mal ». Puis je me demandais presque « est-ce que c'est possible ? Est-ce que je fabule ?» Mais j'ai continué parce que ça faisait nettement moins mal. Et donc, ça a vraiment ça a bercé mon accouchement.
Et quel genre de son tu faisais à ce moment-là ?
En fait, je faisais moi des sons qui étaient plutôt des sons lyrés, des espèces de « ouah », des sons très, très éthériques. Mm-hmm. Ce qui n'est pas la base, quand je reviendrai au chant prénatal, on travaille beaucoup plus avec les sons graves, les sons qui vont vibrer dans le bassin. Mais ce qui me fait dire que la théorie n'est pas toujours... Il ne faut jamais être sectaire en théorie, il ne faut jamais être trop, trop dogmatique. Parce que moi, j'ai fait des sons qui étaient plus éthérés, plus aigus et qui m'ont beaucoup libérée. Alors, si je reviens au chant prénatal, par la suite, quelques années plus tard, j'étais de nouveau enceinte et en furetant sur Internet, j'ai découvert que le chant prénatal était... une approche qu'avait développée Marie-Louise Auché, psychophoniste. Je reviendrai sur la psychophonie tout à l'heure. Et donc, ça m'a beaucoup intéressée. Alors, j'ai eu l'intention de faire une formation. Les formations se donnaient seulement en France. Et j'étais sur le point de me décider à aller faire la formation en France quand quelqu'un m'a appelé pour me dire que Chantal Verdière, qui est une des... C'est la sage-femme avec qui Marie-Louise Auché fondatrice de la psychophonie, a travaillé, venait donner une formation au Québec. Alors, je me suis dit, quel beau timing. Alors, voilà, j'ai fait cette formation en chant prénatal. Et l'approche de Marie-Louise Auchet, c'est une approche de... Elle a essayé de comprendre, dans les années 50, c'est une espèce de pionnière du travail sonore. Et elle était cantatrice et elle s'est intéressée beaucoup au travail, à l'impact du son sur le corps. Elle a travaillé avec des sourds, des enfants, elle a travaillé avec des autistes, elle a travaillé avec plein de personnes.
Dans différents secteurs, comme ça, de santé.
Exactement, beaucoup dans le secteur de la santé, tout à fait. Et elle s'intéressait au son, justement, avec les malentendants. Ce qu'elle a travaillé, c'est vraiment le son comme vibration. Mmh. Et de la psychophonie, s'intéresse vraiment au son, au phénomène vibratoire du son. Et en chant prénatal, on va travailler justement le développement de la conscience corporelle. Comment aller faire vibrer le son dans le bassin? Comment travailler avec la tâche du diaphragme? Comment amplifier la respiration?
Mm-hmm. Mais Hélène, commençons au début. Alors, les femmes, à ce moment-là, à Montréal, est-ce que c'est connu à Montréal?
Ça commence à se développer. C'est assez récent. Donc, ça doit faire après... Moi, j'ai suivi la formation il y a 4 ans. Non, mm-hmm. 5 ans. 5 ans déjà.
Dans les CLSC ou les hôpitaux, est-ce qu'ils connaissent cette approche-là?
Pas beaucoup.
Et est-ce qu'ils l'acceptent? Parce que te voir chanter comme ça pendant que tu étais après accoucher, je ne sais pas, moi je vois le médecin ou les infirmières dire que c'est cafala, c'est complètement folle. Là,
c'est sûr que ce qui va être facilité, il y a beaucoup de femmes, par exemple, moi, à un moment donné, on a donné des cours dans la maison des naissances Côte des Neiges, et là, c'est sûr qu'il y avait un très, très bel accueil. On allait même donner les cours là et on a eu la chance de voir des couples qui venaient dont l'enfant venait de naître et qui nous disait qu'ils avaient fait des sons dans le bain et tout ça. Donc là, c'est assez sûr que c'est un contexte idéal. Mais, en fait, c'est un travail très subtil. Hein. Donc, les sons, généralement, c'est apprécié parce que ça permet aux femmes et aux couples qui vivent cette expérience-là d'entrer dans une espèce de bulle qui leur permet, en fait, plutôt que de lutter contre ce qui est contre la contraction, contre la vie qui veut, ça leur permet d'aller avec le courant. Donc généralement c'est apprécié parce que ça permet de vivre sans freiner et sans lutter contre ce qui est, de participer à l'élan. Et donc généralement la contraction, elle va fondre parce qu'on lutte pas contre elle, on la reçoit.
Okay. Un peu comme une vague.
Exactement. D'ailleurs, c'est une vague, la contraction. Hein, c'est vraiment ce même type d'onde. Mm-hmm. Et quand on travaille avec les sons graves, ce qu'on a découvert dans le champ prénatal, c'est que le son grave, le gémissement, par exemple, c'est une stratégie du corps pour générer un état de semi-transe et sécréter des endorphines.
On
gémit naturellement, puis c'est pas tellement bien vu socialement, mais si on laissait cette stratégie vraiment intelligente du corps se faire, probablement qu'on pourrait atténuer considérablement les douleurs, plutôt que soit la réprimer ou soit entrer dans un état de qu'une femme entre dans un état de colère à l'accouchement, puis qu'il y a des moments où c'est tellement fort qu'on peut aller avec cette énergie force exactement. Mais si on accepte la vague, puis on travaille avec elle en allant chercher cette force sonore. En tout cas, les témoignages que j'ai eus sont très, très beaux. Il y a beaucoup de témoignages qui vont dans le sens de cette atténuation considérable de la douleur.
De la douleur de la contraction.
De la douleur de la contraction et de cette capacité, finalement, de rester longtemps dans cet état de presque semi-méditatif où on va avec la vie qui passe en nous plutôt que de lutter contre elle.
Et est-ce que ça peut se faire aussi dans la phase utérine?
Ben oui, en fait, ce qu'on fait justement... Alors, donc ça, c'est pour l'aspect accouchement, on a parlé
prénatal,
tout à
fait.
Mais dans le prénatal, ce qui est très, très beau, c'est que le son, et d'abord la voix de la mère et ensuite la voix des proches, à partir du 5e mois de grossesse, l'oreille est formée, donc la voix est perçue.
5 mois?
Oui.
OK. Hey, faut que je vous dise quelque chose. C'est un peu capoté. Oui. Tu parlais du son des proches aussi.
Oui, oui.
À ma fille, avant qu'elle vienne au monde, je prenais le stéthoscope, je le mettais à l'envers, je collais les écouteurs sur... sur la bédaine de la maman, puis je parlais dedans.
Oh.
Sans savoir que...
que t'étais entendu.
Voilà.
Et c'est très... la voix du père, c'est d'ailleurs le contact qui va se... Il y a différents contacts, ça peut être par le tactile, avec l'autonomie, tout ça. Mais la voix est très, très porteuse. Elle est très porteuse de l'émotion, elle est très porteuse de l'affectif. Et elle est très porteuse sur le plan vibratoire. Et... ça me faisait penser ce que tu disais. Ah oui, ce que Marie-Louise Auchet aussi suppose, c'est qu'avant d'être perçue sur le plan auditif, elle est perçue sur le plan tactile, sur le plan... la vibration, on le sent d'ailleurs quand on entend des fréquences très, très graves. Notre corps réagit, hein, on va le sentir sur notre peau et tout ça. Donc, elle dit justement que la voix du père, par exemple, est... À cause, quand la voix du père et la voix de la mère s'unissent, il y a comme
un auréole quasiment.
Oui, de fréquence vibratoire. Et donc, c'est comme tout le corps, et tout le corps de l'enfant qui est touché par le son.
Je suis tellement content d'apprendre ça. Je ne raconterai pas cette histoire-là. C'est un peu fou, tu sais.
Puis je parlais, je disais,
mais je chantais pas, mais je parlais. Je disais, allô bébé, comment ça va, tu sais, tout ça. Et je suis certain que le son, je disais, t'sais, s'il y a quelque chose à se passer, ça va se faire tout seul. Le reste, je suis surpris de raconter ça aujourd'hui, mais quand j'entends une histoire comme ça, dans la psychophonie, en phase prénatale et même avant, je fais...
T'as eu l'intuition juste.
Ben moi, je fais ça pour m'amuser. Je sais même pas si on peut parler d'intuition, mais en tout cas, je suis content d'entendre ça.
De toute façon, l'amusement, généralement, ça nous amène sur les bonnes pistes, souvent, quand on a du plaisir.
Quand est-ce que on va pouvoir entendre un exemple?
Ben, les exemples, en fait, ça dépend. Donc, c'est ça. Si je reviens à ce qu'on peut faire en prénatal, ce que je vais faire dans le cours avant, justement, l'accouchement, c'est que ce qu'on va faire, c'est d'abord, il y a toutes sortes de vocalises qui ont pour but d'aller chercher, par exemple, la conscience de la sangle abdominale, du périnée, de la bascule du bassin. Là, on va s'amuser avec le son. Puis après ça, il y a les berceuses aussi. Puis les berceuses, hein, dans le fond, les femmes chantent des berceuses depuis le début des temps, puis c'est vraiment, sur le plan affectif, ça passe. Hein. Je pense que presque tous fait l'expérience, la berceuse. Et donc, je m'amuse beaucoup à aller rechercher ce répertoire de berceuse. Et si ça vous tente, bien, je peux peut-être vous chanter une berceuse séfarade qui est toute courte, qui s'appelle « Alanana à la bouba ».
Oui, oui, on veut, on veut.
« Yalanana, yalabouba, yalanana, yalabouba, se durma la criatura, se durma la criatura. El Dio grande que los guarde, el Dio grande que los guarde, a los niños de los males, a los niños de los males.
Magnifique.
Oui.
Alors, c'est une petite berceuse. En fait, les berceuses, souvent, qu'est-ce qu'elles racontent, hein? Elles racontent « Dors bien, mon petit bébé ».
C'est drôle, moi, j'entends ça, puis ça ne me donne pas le goût de m'endormir, ça me donne le goût de l'entendre.
Ben, y a cette fascination-là. Quand on écoutait notre mère, je ne sais pas, par exemple, si vous avez des souvenirs de votre mère vous berçant.
Pas tellement,
pas
non.
Pas tellement. Moi, ce qui est drôle, c'est que j'avais un père chanteur de sérénade. Alors, mon père, c'était l'homme à la belle voix. Ma mère, elle avait une voix dont mon père riait tout le temps parce qu'il trouvait que c'était pas une belle voix. Et moi, je me souviens d'adorer la voix de ma mère parce qu'elle était très, très... C'est une voix de poitrine avec beaucoup, beaucoup de... qui résonnait, qui vibrait. Donc, mon plaisir, c'était vraiment de m'appuyer contre sa poitrine, ça, ouais. Puis de sentir la vibration, justement. Et d'avoir cette espèce de conscience. Puis progressivement, ça... Donc, c'est sûr que là, on peut chanter à pleine voix ou on peut chanter tout doux pour notre bébé qui est contre nous. Quand on travaille en chant prénatal, on va aller chercher vraiment la conscience corporelle. Donc, on va y aller au début dans une certaine... On peut y aller avec une certaine vigueur pour pouvoir sentir nos appuis, pouvoir sentir notre corps. Puis quand on prend notre petit bébé contre nous, mais c'est sûr que ça va être plus intime. Hein? On va aller travailler l'intimité. Puis progressivement, l'enfant d'abord, souvent, quand il entend la voix, il est alerte. puis progressivement, il se laisse aller là-dedans, puis c'est cette attention-là qui va faire que progressivement, il va fondre dans le sommeil.
Il y a une question que j'ai le goût de te poser, par exemple, pour redevenir plus concrète. Moi, je suis une maman, j'attends un bébé, j'ai le goût de connaître ça, moi, le champ prénatal. Alors, qu'est-ce que je fais là? À qui je m'adresse?
Ben, il y a un site qui s'appelle Préparation affective à la naissance, où il y a les différentes...
Préparation affective dans un mot?
Oui, préparation affective dans un mot à la naissance. Donc, en fait, si on fait Google, préparation affective à la naissance, on va tomber sur le site et il y a... Bon, ça se donne aussi en Europe, puis on va voir tomber sur le site, par exemple, toutes les femmes qui, ici au Québec, enseignent le champ prénatal, presque toutes, en tout cas plusieurs d'entre elles, ont soit une adresse courriel, soit un numéro de téléphone. Donc, on peut contacter ces différentes personnes-là. Mm-hmm. Et voilà.
Alors, Hélène, merci infiniment d'être venue nous parler du champ prénatal. Je répète encore l'adresse. Peux-tu la répéter, l'adresse Internet?
Présence affective à la naissance.
Okay. Une recherche sur Google. Et à ce moment-là, vous allez avoir les sites, les personnes ressources à Montréal.
Pour, oui, exactement. Okay.
Alors, merci encore une fois. Et je sais que tu reviens nous parler de chance séfarade.
Oui,
voilà. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça m'a l'air à t'écouter chanter tout à l'heure. J'ai l'impression que ça va être très beau. Mmh. Alors, à la prochaine.
Ça m'a fait grand plaisir.
Eh bien, quant à nous, chers auditeurs, nous allons à la pause. Et quoi de mieux que de vous faire entendre cette magnifique voix d'Hélène Martinez que nous venons d'entendre dans une interprétation de chant séfarade dont elle viendra nous parler, là, je tiens à vous le spécifier, soit la semaine prochaine ou quelque part, en tout cas d'ici quelques semaines. Alors, c'est une plage assez longue, laissez-vous bercer et laissez-vous pénétrer par ces vibrations absolument extraordinaires d'Hélène Martinez.
So
Vous n'avez pas l'impression que c'est une voix qui descend directement du ciel, vous? Moi, j'ai l'impression que c'est un vrai cadeau, un vrai moment zen. Alors maintenant, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Benoît Guérin, chroniqueur à l'émission. J'aimerais ça aujourd'hui, Benoît, que tu prennes le temps, en fait, peut-être 10-12 minutes pour nous parler du cheminement que tu as fait, toi, pour en arriver à t'intéresser aux problèmes collectifs, aux problèmes auxquels tu t'intéresses plus particulièrement. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton cheminement?
Oui. En fait, je trouve ça intéressant qu'on en arrive là, parce que qu'on passe par là dans la chronique, parce que effectivement, on peut être tenté de se demander des fois, ouais, mais comment on fait pour libérer? C'est pas du jour au lendemain, moi, que j'en suis venu à me préoccuper de sujets comme, par exemple, les OGM ou comment va notre environnement, c'est quoi notre identité comme citoyen. Tu sais, ce qu'on a vu dans nos chroniques, effectivement, il a fallu d'abord, moi, dans ma vie à moi, et quand on écoute un peu les gens autour, on se rend compte que beaucoup de monde est comme ça. On peut pas s'ouvrir sur ce genre de problème-là avant de régler les trucs de bases dans notre vie qui font qu'on a de la difficulté à rentrer même en relation avec nos proches, avec les...
De s'ordonner du pouvoir par rapport à notre propre vie, finalement.
Oui. Pas parce que les OGM puis l'intimidation font pas partie de notre propre vie, mais c'est un petit peu plus en périphérie, qu'on pourrait dire. C'est moins évident. Il y a une chose... Évidemment, tout prend place dans notre vie, là, mais il y a des choses que, quand on, ils fonctionnent pas bon, concrètement. Moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, ado, ou comme ben du monde, je savais pas, là, parce que ça a pris une thérapie, là. J'ai rencontré une thérapie, pour que je me rende compte que je m'aimais pas. Tu comprends-tu? J'avais pas de confiance minimale en moi. En fait, même la notion de moi, là, j'avais pas questionné ça beaucoup, j'avais pas beaucoup vu ça. Mais il y avait un mal-être intérieur, un genre de mal-être qui me faisait bouger tout le temps, puis essayer d'être toujours dans le divertissement, puis demande-moi pas de faire d'autres choses parce que je suis pas bien. Alors, je pouvais pas le nommer.
Qu'est-ce que t'avais décidé d'aller entreprendre une démarche là-dedans?
Je pense que moi, ce qui s'est passé, comme bien du monde, puis quand j'enseigne, j'en parle souvent à mes étudiants, je dis souvent le vase déborde. Tu sais pas, il y a une goutte de plus, puis là, ça fait pas. Cette espèce d'organisation étriquée qu'il y a à l'intérieur, elle tient plus. Il y a comme, moi, j'ai passé comme un fait divers là, au cégep, où je me suis échappé à parler de quelqu'un autour, puis je me suis trouvé dégueulasse, puis le gars l'a peut-être entendu, puis là, ça a pas fait. En dedans, là, il y avait comme un désordre, puis là, c'était obsessif, fait que là, je pouvais pas vivre avec ça, c'est que j'ai dit, bon, ben là, m'aller voir quelqu'un, va me faire aider. Et quelle trouvaille! Tu sais, c'est comme, là, je pensais juste me faire aider sur un problème. Là, j'ai commencé à ouvrir sur...
Sais-tu, ça me fait penser à une chose. Un jour, je donnais un exercice de relaxation à Radio-Québec. Et il y avait des lignes ouvertes après. Puis il y a une dame qui appelle et elle me dit sur les ondes, aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Alors moi, j'étais comme, hein? C'est le plus beau jour de ma vie. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Elle me dit oui. Elle dit, vous savez, aujourd'hui, j'ai découvert que j'existe par en dedans. Et ça a été peut-être le plus beau compliment que j'ai reçu dans ma vie. J'ai l'impression que c'est de ça dont tu parles quand tu parles de thérapie. C'est que tu découvres que tu existes par en dedans.
Oui. Ben, je dirais, la découverte, moi, en fait, ce qui m'a touché particulièrement, je pense que c'était moins la découverte que je... Oui, c'est vrai que j'ai existe par en dedans. Mais en fait, c'était effectivement cette dimension-là rouvrait sur... ça élargissait. J'étais comme en survie, moi. J'étais comme... Puis j'en avais pas conscience, mais j'en souffrais. Et de prendre conscience de ça, et de ma souffrance, et des solutions, c'était comme pour moi un univers incroyable.
Fait que c'est ça qui t'a amené à t'intéresser aux problèmes collectifs?
Ben, en fait, c'est que ça se fait graduellement. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai commencé par une thérapie, j'ai travaillé sur moi-même, j'ai pris des livres, j'ai commencé à m'intéresser à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment on nomme ça, c'est quoi les façons de voir ça, fouiller ses affaires. Là, j'ai fait beaucoup de cheminement et ça, c'est une des manières qui, pendant plusieurs années, m'a aidé. On pourrait appeler ce qu'on appelle traditionnellement les thérapies ou les thérapies de groupe plus tard, mais c'est venu plus tard. J'ai commencé par des thérapies vraiment individuelles, par en faire une, tu sais, puis à régler un gros des problèmes. Puis là, j'ai commencé à rencontrer des femmes parce que j'étais mieux dans ma peau, puis que ça fait du bien, là, tu sais, quand tu tournes tout le temps autour du pot parce que tu t'aimes pas, puis tu
avoir une vie sexuelle saine.
Une vie amoureuse, une vie de rencontre, être capable d'aller vers les autres humains, de dire ce qu'on pense, toutes des choses que je faisais pas, je me rendais pas compte. Mais c'était fondamental parce que tant qu'il n'y a pas eu ça dans ma vie, ben évidemment, le reste pouvait pas éclore. Le reste des dimensions de la vie avait de la difficulté à venir au monde. Alors, tranquillement, les autres dimensions sont venues au monde, effectivement, à partir de ce moment-là. Et je dirais, lentement, ben j'étais bien, puis là, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres problèmes. Mais évidemment, quand on gratte une couche, on se rend compte des fois, comme ben des gens, qu'il y en a une autre couche en arrière. Et puis là, ben il faut aller gratter encore un peu plus. Et moi, j'ai rencontré d'autres problèmes importants, comme beaucoup d'autres. On pourrait appeler ça les grandes dépendances. Oups! À quelque part dans ma vie...
J'appellerais ça du décapage.
Oui, du décapage. Puis à un moment donné, les thérapies individuelles, ça n'a pas fait pour ces grandes dépendances-là. Mm-hmm. Comme beaucoup de gens. De quoi je parle, grandes dépendances? Les dépendances au jeu, les dépendances... Là, c'est pas important laquelle, moi, j'ai vécu. Parce que l'important, c'est que il y avait, dans ces dépendances-là, certains, c'est des dépendances au jeu, d'autres, c'est au fait de manger. Hein, on ne se cachera pas, on le voit partout autour. Incapable d'arrêter de manger, ça comble un vide intérieur. Mais en fait, on essaie de combler le vide intérieur. D'autres, c'est les drogues, d'autres, c'est la boisson. Ce genre de grosses dépendances qui rejaillissent sur tout notre environnement parce qu'ils nous empêchent littéralement de vivre.
Le travail aussi?
Oui, ça peut être être workaholic, n'importe quoi. Mm-hmm. Puis à un moment donné, ça amène à des désespoirs immenses. Et ça a été mon cas. Et à ce moment donné-là, j'ai découvert d'autres instruments. Ah! Ça, là, ça a été une autre découverte incroyable, et ça se nommait l'entraide. Ça, c'est méconnu dans notre monde, là. C'est tellement méconnu, c'est tellement peu connu.
Je te dirais même que c'est défendu, hein?
Ah, et souvent, ça a une très mauvaise réputation dans certains cas. Qu'est-ce que t'entends par défendu?
Ben, défendu, je dirais que, regarde comment les gens s'occupent de leurs parents présentement. Ils les campent dans des mouroirs.
Ouais.
Tu sais, l'entraide, c'est d'abord avec tes enfants, tes parents, avec tes proches, tes frères, tes sœurs. Il y a des gens, moi je connais des gens, tu sais, que leur frère ou leur sœur est complètement dans la pauvreté, et les gens sont riches et ils font absolument rien. Hein? Ouais. C'est comme à chacun son pécule, à chacun ses choses, son destin, puis débrouille-toi avec le reste.
Hein? C'est très vrai, et dans cette optique-là, moi l'entraide que j'ai découvert, c'est une entraide bien particulière qui s'appelle les groupes anonymes. Et c'est de celle-là dont je parle en particulier, parce que ça, c'est tout un monde. Des groupes anonymes, là, il n'y a pas juste les AA, là, comme certains pensent, avec les clichés qu'on a vus à télévision, mon nom c'est Robert, je suis un alcoolique. Attention, là, il y a des dizaines de groupes anonymes comme ça, aux proportions très grandes, où ils ont des réunions tous les soirs dans plusieurs villes, etc. Des groupes, voulez-vous que j'en nomme quelques-uns? On reviendra plus tard dans une autre chronique là-dessus. Mais les outre-mangeurs anonymes, ceux qui ont les problèmes de poids, les gamblers anonymes, les groupes sur la consommation qui sont plus connus, là, les NA, les A, les cocaïnomans anonymes, mais il y a aussi des groupes de dépendants affectifs anonymes, des émotifs anonymes. Mais c'est pas petit, les émotifs anonymes. Trentaine de réunions par semaine à Montréal. Hein? Un monde caché, un monde qu'on connaît pas. Des gens qui s'entraident à résoudre leurs problématiques. Et ça marche, ça. On va en parler, on va en faire une chronique spéciale. Mais pour moi, là, ça a été tellement touchant de me rendre compte que je pouvais rencontrer des gens qui avaient des gros problèmes comme j'avais. Et qu'ensemble, ils s'en sortaient, puis là, il y en a qui faisaient des années qu'ils avaient plus ces problèmes-là, puis ils venaient m'aider, mais il y avait le type de personnalité que j'avais. C'était des excessifs comme moi, c'était des gens qui... Et ils s'en sortaient simplement comme ça, pas par expertise, comme j'avais connu dans la thérapie, mais par le fait qu'ils l'ont vécu. Et ils ont développé des méthodes, et les 12 étapes qu'on appelle les 12 traditions, qui sont des super belles façons de voir. C'est pas pour rien que c'est immense comme ça, des groupes comme AA ou NA ou CA. Mm-hmm. Alors, moi, ça a été...
C'est comptable agréé, ça, c'est pas pareil.
Oui, pour bien des gens, c'est comptable agréé, mais sauf que pour moi, ça a été...
Cocaïnoman
anonyme. Okay. Et toutes ces fraternités-là, on va le voir plus tard, se ressemblent beaucoup. Et c'est extrêmement touchant. On peut rencontrer là des gens avec qui on est en situation où on se fait aider, où on apprend sur soi-même, où on avance, où on règle vraiment des problèmes, puis on s'ouvre encore plus au monde. Parce qu'à chaque fois dans ma vie que j'ai réussi à enlever une couche de problèmes qui m'étouffe, j'ai découvert un peu plus du monde qui m'entoure. Et c'est comme ça que ça arrivait. Et puis là, au fil des années, après avoir rencontré ces trucs-là,
ça a encore une fois tourné en rond. Puis, ben ça, c'est moi qui le portais. J'avais comme en dedans le sentiment que j'allais pas au bout de ce qui était possible. Mm-hmm. Et puis, ça aussi, ça sera sujet d'une autre chronique. Mais à ce moment-là, j'ai découvert tout un autre monde en faisant ma quête intérieure, parce que d'un groupe anonyme nous suggère ça, continue de chercher pour voir comment tu peux arriver à vivre plus heureux puis tout ça. Là, j'ai découvert tout un autre monde qui nous venait de l'Orient, et entre autres, les techniques qu'on appelle les méthodes
méditation.
Ben souvent on appelle ça la méditation, mais en particulier les deux trucs que je pourrais nommer qui m'ont touché particulièrement, c'est les pratiques de l'attention et les pratiques de contemplation de dimension de comment l'esprit fonctionne et qui peuvent aider énormément. Ça là, c'est des pratiques millénaires en Asie.
Ok, mais là tu vas nous parler de ça une autre fois là, Ben, ouais. Parce que ça peut passer pour des patentes à gosse.
Mais pour moi là, aujourd'hui en psychologie, ces méthodes-là, là, c'est la psychologie travaille avec ces méthodes-là. Là.
Oui,
maintenant, c'est
oui.
Main dans la main. Là. Les pratiques de l'attention ou de méditation, on sait maintenant Absolument. Très bien Absolument. Qui mènent à un plus grand bonheur, qui peuvent mener. Et là, on verra qu'il y a des façons de faire, puis de s'assurer aussi qu'on n'est pas avec des charlatans ou des trucs.
Oui, mais c'est ça, parce que ça a été aussi utilisé par toutes sortes de sectes.
Bien sûr, mais ce qui est important de se rendre compte, c'est que c'est aussi utilisé par des mouvements millénaires au niveau de la médecine orientale, au niveau de la psychologie orientale et des traditions comme par exemple le bouddhisme qui ont fait leurs classes et leurs preuves, là, qui sont reconnus comme des endroits, peut-être dans les moins sectaires, des endroits où on peut cheminer sur cette planète-là.
Ce qui me fait rire, c'est que venant d'un professeur d'entendre que le bouddhisme a fait ses classes, ça fait bien.
Oui, c'est ça. Oui, il n'y a pas que les élèves qui font leurs classes. Il y a vraiment... Et c'est un monde qu'on apprend à découvrir ici en Occident et que moi... et qui m'aide énormément depuis une dizaine ou une douzaine d'années. C'est un peu comme pour moi, j'ai découvert des instruments que je peux m'approprier. Après être passé par l'aide un à un en thérapie, l'entraide avec d'autres êtres humains, maintenant, j'apprends à m'approprier des choses où je peux m'aider moi-même. J'ai plus besoin de quelqu'un pour m'accoter dessus. Mm-hmm. Et ça, pour moi, c'est quelque chose... Oh, ça veut pas dire que j'aime plus ça, l'entraide. Ben oui, je peux y retourner, puis aller donner maintenant que j'ai réglé plusieurs trucs.
Oui, je comprends.
Mais en ayant réglé des choses, ça me permet de m'ouvrir sur le monde et de travailler sur les autres dimensions, comme les OGM, l'intimidation chez nos enfants et ces trucs-là.
Si on reviendra là-dessus un peu, Benoît. Alors, je te remercie beaucoup pour aujourd'hui. Et puis, dans une chronique éventuelle, tu continueras à nous parler de ton cheminement, surtout face aux problèmes collectifs, puis comment tu as fini par devenir directeur de MapMonde. Hein?
Oui, entre autres.
Là. Ah oui, entre autres, rien que ça, mais c'est...
Ben, c'est pas directeur,
c'est une belle réalisation.
C'est une des personnes qui travaille à ça, parce qu'il n'y a pas de structure formelle.
Ah, je sais qu'il n'y a pas de structure formelle, mais pour moi, tu es directeur pareil. Alors, je te nomme directeur.
OK, bon, ben, on va le prendre pour le moment.
C'est bien. Alors, à la prochaine, Benoît.
À la prochaine, Jeanne-Audrey.
Eh bien, c'est ainsi que se termine l'émission d'aujourd'hui. Nous recevions Hélène Martinez qui nous a parlé de chant prénatal et qui reviendra éventuellement nous parler de chant séfarade. En la suite de quoi, nous avons reçu nos chroniqueurs habituels à l'émission, Paul Hubert Legault, Annick Perrault-Labelle et Benoît Guérin. Mais avant de terminer, chers auditeurs, j'aimerais vous remémorer le fait que vos courriels sont toujours très bienvenus à l'émission. Nous adorons recevoir vos commentaires et vos questions aussi. Vous savez, on est plein de ressources ici. Il y a beaucoup. Il y a Paul Hubert Legault qui est un coach professionnel. Il y a moi qui est psychologue. Il y a aussi Benoît Guérin qui est professeur et qui peuvent facilement, tous ces gens-là peuvent facilement répondre aux questions que vous avez à leur poser. Alors, n'hésitez pas. Et si vous sentez qu'il y a une partie des chroniques qu'on présente qui vous rejoignent ou vous aimeriez avoir plus de détails, peut-être des moyens concrets pour arriver à réaliser certaines choses dans votre vie, alors n'hésitez pas à nous écrire. L'adresse courriel est la suivante, radiotonique@live.fr. Vous pouvez toujours aussi vous rendre sur le site web de l'émission qui est radiotonique.com. ou encore www.radiotonique.com, un ou l'autre, ça fait. Malheureusement, pour quelques jours encore, le site n'est pas vraiment bien fourni parce que j'ai commis une erreur dernièrement. J'ai voulu, imaginez-vous, sauvegarder le truc sur mon ordinateur et j'ai pesé sur le bouton effacer. Alors, ça a donné un résultat assez dramatique. Je me suis retrouvé finalement le lendemain avec un site complètement vidé de son contenu. Alors, il a fallu recommencer à reconstruire le site, mais d'ici quelques jours, il devrait y avoir déjà des contenus intéressants à consulter. Alors, merci beaucoup d'avoir été là à nouveau aujourd'hui. À la réalisation, à la mise en onde et à l'animation, Jeanne et Audrey Lajoie, qui vous souhaite une très belle semaine. Ne quittez pas pour autre fréquence qui suit tout de suite après. Alors à bientôt. La pièce qui suit, Blackout, est interprétée par Davis Giron-Demange. Au piano, mon grand ami Francis Demange.
OK, 3, 2, 1.
Tu aimerais que ta vidéo soit vue par des millions de personnes? T'as le goût d'aider les autres? Sors ta caméra et réalise une publicité sur le bénévolat. Et cours la chance de l'avoir diffusée plusieurs dizaines de fois à la télé couleur. Tu trouveras plus d'infos sur le nouveau concours du Centre d'action